est 6h20, plusieurs pays étrangers se mêlent un peu trop du système universitaire français. Ils essaient d'exercer des pressions politiques dans les facultés et les grandes écoles. Des sénateurs ont travaillé sur le sujet et ils dénoncent cette ingérence. Bonjour André Gattolin.
Bonjour.
Vous êtes le rapporteur de cette mission d'information. Comment se traduit cette ingérence étrangère? Quelle forme prend-elle?
Ben précisément, elle est protéiforme. Ça va de la simple relation amicale un peu poussée, associée à des pressions ou, comme on dit maintenant, des incentives, une bourse, une possibilité offerte d'aller enseigner dans une grande université étrangère, jusqu'à l'infiltration à travers parfois des étudiants, à travers des stages où le pays leur dit, eh ben, ça serait bien que tu obtiennes un stage chez telle société parce qu'il y a des choses intéressantes. Et parfois, alors c'est des aspects plus difficiles à percevoir, c'est le vol et la captation de données. Là, les services de renseignement sont encore très prudents. C'est des affaires au long cours et qui sont très difficiles à renseigner et à porter devant la justice.
Mais les formes les plus fréquentes de cette ingérence, c'est quoi? C'est on fait pression pour essayer d'annuler un colloque qui déplaît à un parti? On influence les sujets d'enseignement?
Voilà, il y a deux grandes formes d'influence. Il y en a une qui vise à, je dirais, peser sur le discours médiatique, sur la narration qui est portée sur tel ou tel pays. On pense bien évidemment à la Chine où des pressions sont exercées sur des universités ou des chercheurs pour ne pas parler du Xinjiang, donc des Ouïghours, de ne pas parler de Taïwan ou autre. Ça s'exerce aussi sur les hommes politiques, puisque j'ai quelques collègues en ce moment qui sont partis à Taïwan et ça fait quand même, ça provoque beaucoup de réactions et même de menaces. Et puis, il y a des choses qui sont la recherche de captation de données protégées. Alors, parfois très sensibles. Alors, dans les domaines les plus sensibles, militaires, terrorisme, là, les services veillent de très très près. Mais on a des zones blanches. On a des domaines où, finalement, notamment les sciences sociales et humaines, on dit « Oh, c'est pas très grave ». En réalité, c'est grave parce que ça nuit à quelque chose de fondamental dans l'université, qui sont les libertés académiques. Quand un prof s'auto-censure, et l'auto-censure est devenue sur certains sujets le mode dominant, parce que vous n'avez pas de visa, vous n'avez pas accès aux sources, vous êtes même un peu contesté dans vos travaux, soit par les étudiants, soit par l'ambassade. Et le développement, notamment pendant le confinement, des cours en ligne sur des systèmes mal protégés, fait qu'on sait exactement de l'extérieur ce qui est dit. Et parfois, ça provoque des retours inquiétants.
Oui, vous détaillez effectivement dans ce rapport tous les leviers, la façon dont s'exerce cette ingérence, ces outils. Donc ça passe par le biais d'étudiants, vous le disiez. Il y a aussi le financement de certaines coopérations et le rôle des instituts Confucius.
Oui. Alors les instituts Confucius, je dirais, c'est la partie émergée dans la stratégie, je dirais, globale, je dirais même systémique, d'influence de la Chine dans le monde universitaire et académique. On a l'impression que c'est un petit peu en désuétude, c'est devenu trop visible, on s'y est intéressé.
C'est la vieille méthode, c'est ça?
C'est un peu la vieille méthode, et puis quand vous avez un bâtiment, un endroit, on regarde d'assez près, ça ne veut pas dire qu'il
n'y en a 17 en France, des instituts.
Il y en a 17, nos territoires d'outre-mer intéressent beaucoup. Là, visiblement, on a bloqué très récemment la volonté d'instituer un institut Confucius en Nouvelle-Calédonie. Mmh. Vous imaginez, il y a déjà un nombre de délégations chinoises qui s'intéressent à la Nouvelle-Calédonie, qui ont pris contact avec les populations en cas d'indépendance, puisqu'on devrait avoir un vote très prochainement. Mais l'île de la Réunion, la Polynésie, tout ça sont
très ciblés.
Mais
c'est important de le dire, c'est pas qu'à Paris, quoi. Ce ne sont pas que les universités françaises ou les grandes écoles qui se trouvent à Paris.
Non, précisément, c'est un maillage territorial. Alors, vous voyez, il y a eu un institut Confucius qui s'est installé dans un premier temps à l'université de Bretagne occidentale à Brest. Brest, c'est quoi? C'est le deuxième port militaire de France. C'est toute la recherche stratégique, c'est Thalès, c'est Ifremer. Bon, naturellement, l'université a réagi, a sorti l'institut Confucius. La Chine a racheté une école de commerce et a installé l'institut Confucius. Et il y a une fragilité, notamment dans les écoles de commerce, parce que comme elles sont privées et qu'elles sont dépendantes de la ressource, eh bien comme les étudiants, notamment venus venus de Chine ou d'autres pays sont prêts à payer très cher, ça exerce un poids sur l'université. Et c'est ce qui a ébranlé le système en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Nous, on a la chance encore d'avoir une université qui est largement publique et des présidents d'université qui refusent d'appliquer des droits différenciés pour les étudiants étrangers.
On parle de la Chine depuis le début de cet entretien, oui. Parce que c'est la principale menace, oui. Mais il y a d'autres pays ?
Disons que, si vous voulez, sur le podium, elle est tout en haut du podium et est loin devant.
Et la marche est très très haute, c'est ça ?
Elle est très très haute, c'est-à-dire que les autres pays, la Turquie, la Russie, finalement, on nous a étonnés, elle est assez peu présente dans le monde universitaire. Elle a d'autres systèmes d'influence à travers les médias, les réseaux sociaux, les fausses informations, mais on n'a pas noté beaucoup d'entrisme, de volonté d'entrisme dans l'université.
Et la Turquie, c'est Golfe. Surtout sur le génocide arménien, c'est ça ? C'est vraiment le sujet.
Le génocide, et puis aussi la réorganisation du pouvoir. Hein. Mmh. Les instituts Yunus Emre ont été créés pour se substituer à des réseaux qui étaient religieux, qui ont été jugés comme putschistes il y a quelques années. Et puis, là aussi, c'est souvent un instrument de contrôle de la diaspora.
Mais est-ce que tout ça, c'est vraiment nouveau, cette tentative d'ingérence dans le monde universitaire en France ?
Non, c'est pas totalement nouveau. En France, c'est relativement nouveau parce que, je vais vous dire, moi je trouve qu'on était particulièrement bienveillant, voire accueillant. La Chine n'a pas eu besoin de s'ingérer pour obtenir l'installation avec les moyens technologiques de la France de laboratoire P4 à Wuhan. La Chine n'a pas eu besoin de faire pression pour que nos grands chirurgiens aillent former, il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, les médecins, les chirurgiens chinois aux transplantations d'organes. Pendant longtemps, il y avait un côté, la France est amie de tout le monde, tout va bien, servez-vous mes amis. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on perd sans doute beaucoup d'argent et d'influence dans ce domaine-là et ça se renforce en plus de manière systémique.
Merci beaucoup André Gattolin. Je renvoie nos auditeurs à cette mission d'information et qu'on trouve d'ailleurs tout en détail sur le site internet. Absolument. Du Sénat. Vous faites plein de recommandations aussi pour justement se protéger contre toutes ces ingérences. Vous souhaitez notamment développer ce que vous appelez la culture de la vigilance. Merci encore André Gattolin. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.